Canalem, on aime l'été.
On avait justement une discussion avant que cette belle émission commence, moi et Kevin Breton à mes côtés, Emmanuel Robitaille ici, présente, qui est au micro. On avait cette conversation-là justement, plus on a de temps, plus on est en retard dans la vie.
C'est vrai.
C'est vraiment vrai, hein? Puis là, il me semble que moi, matin, j'avais beaucoup de temps, j'ai pas déjeuné.
Ça crée toujours l'illusion d'être relaxé, mais en fin de compte...
Toi, t'es arrivé comme une heure à l'avance, comparativement à d'habitude, puis t'es arrivé 15 secondes avant le début de l'émission.
Il fallait que j'aille faire pipi, voilà. Et c'est la deuxième fois qu'on parle de pipi en introduction.
C'est la deuxième fois qu'on parle de pipi en introduction. J'imagine, je m'attends que notre dernière, le 30 août, je m'attends à une chronique urinaire de ta part, Kevin. Et restez des nôtres, parce qu'on parlera pas du tout d'urine ou de substances corporelles aujourd'hui.
Non, ta chronique aujourd'hui va porter sur les rêves, les symboles et comment les interpréter. Moi, je suis bien curieux. Parce que je fais toujours le même rêve, je vais t'en parler tantôt.
Et ça veut dire que tu comprends rien, hein? Faut que ça arrête de se répéter, c'est ça?
Peut-être.
Archéo vient nous parler, bien sûr, parce qu'ils sont les spécialistes de l'archéologie. Ils viennent nous parler du mois de l'archéologie qui bat son plein.
Oui, moi je vais parler d'un festival que j'aimais bien, auquel j'aimais bien assister alors que j'habitais à Sherbrooke, Festival Tradition du Monde.
Jean-Sébastien Laliberté, exceptionnellement, est avec nous parce que Maxime, on se rappelle, est parti au Mexique. Et Jean-Sébastien nous parle de la technologie musicale et non de la musique techno.
Effectivement. Puis moi, j'ai terminé avec un petit cours, comment survivre à, cette fois-ci, comment survivre en fauteuil roulant aux avions.
Et attention, on a de la visite en studio pour un festival qui commence juste. Comment oublier, Simon Boulris qui sera des nôtres. Bienvenue à M'l'été, tout le monde.
Je connais des gens qui disent qu'en dormant on perd son temps. C'est sûrement ceux qui passent des nuits blanches. Car elle, voyez-vous, qu'est amoureuse éperdument. C'est en dormant qu'en rêve elle prend sa revanche.
Le jour il ne veut jamais me laisser caresser ses cheveux. Oui, mais la nuit je rêve que je peux. Le jour il me dit jamais je ne t'aimerai même un peu. Oui, mais la nuit, je rêve qu'il me veut. Lui seul me donne la fièvre et me prend mes paquets de Lucky. Mais dans mon rêve, il me donne ses lèvres et me prend tout contre lui. Le jour, il me traite un peu comme si j'étais son petit chien. Oui, mais la nuit, je rêve et tout va bien.
C'était le bon moyen, voyez-vous, car aujourd'hui, c'est moi qui l'aime, c'est moi qui me fais de la vie. Je ne la quitte plus jamais un instant, et elle se dit, vivement la nuit qu'on dorme et qu'on soit tranquille.
Le jour, il me demande tout le temps de lui caresser les cheveux. Oui, mais la nuit, je rêve que je fais ce que je veux. Le jour, il est très jaloux, alors me suis pas à pas. Oui, mais la nuit, je rêve qu'il n'est pas là. Il a toujours la fièvre, il me fume toutes mes Lucky. Mais je reste là car j'aime ses lèvres et je peux pas me passer nuit. Le jour, on se dispute un peu, on crie, on se bat pour rien. Oui, mais la nuit, on s'aime et tout va bien.
Chérie, tu m'aimes.
Ah, oh, je sommeille.
Voyons, chérie, réveille-toi.
Oh, zut!
La nuit, je rêve de Jacques Illian et son orchestre avec orchestre, je vais prononcer ça comme il faut, avec Francine Claudel et Joe Charrier. Les rêves, on a des rêves, des buts, des objectifs dans la vie, mais les rêves dans la nuit, la vie onirique est un de mes sujets préférés au monde. Il y a d'ailleurs un cours qui se donne à l'Université Laval, probablement ailleurs également, en psychologie au baccalauréat, qui s'intitule « Sommeil et rêve », que j'ai suivi avec passion et fougue. Vraiment, j'étais assoiffée de connaissances sur ce sujet-là. Et on parle de cette vie onirique qu'on a tous, certains plus que d'autres. Certains l'investissent, d'autres non. Toi, Kevin, tu dis que tu rêves, mais tout le temps sur repeat.
Oui, vraiment souvent. Puis je porte quand même une attention vraiment particulière à mes rêves, même si ma vie spirituelle n'est pas aussi bien remplie que la tienne, Emmanuel. Mais je pense que c'est plus le créatif en moi et le littéraire en moi et le passionné d'histoire en moi qui focus vraiment chaque matin sur ce que j'ai rêvé, puis je le raconte à ma blonde à
c'est
chaque
fois. C'est
vraiment cool. J'aime vraiment savoir ce à quoi mon subconscient travaille
absolument
quand moi je dors. Et le rêve qui revient de manière vraiment récurrente, sur repeat, comme tu dis, c'est que j'ai terminé l'école depuis 10 ans, moi, et il y a une phase de moi au cégep qui, on dirait, est restée vraiment profondément ancrée en moi ces deux années-là, en 2009-2008, parce que je rêve constamment que j'ai pas terminé un cours au cégep. Qu'il y a un cours que je me suis inscrit sur le tard, fallait que je termine ça genre 10 ans après avoir fini mon deck. Puis là, genre, je suis trop occupé dans ma vie de tous les jours avec mes occupations, mes obligations. Puis là, d'un coup, je réalise, oh, mon examen est la semaine prochaine, j'ai manqué 6 cours, je vais me faire chicaner. Et ça, au moins une fois par mois, je fais ce rêve-là.
Bon, mais ça veut dire premièrement que tu te répètes la même affaire, fait que t'as pas encore trouvé c'est quoi, parce que
oui,
quand tu vas l'avoir trouvé, ça va arrêter.
Ça va arrêter,
ouais. Oui. Oui, première des choses, mais écoute, on va t'analyser ça, on va se prendre au moins une heure après avec un bon café, parce qu'il y a tellement d'approches et de fonctions du rêve qui ont été nommées à travers les auteurs, à travers les domaines également, parce que ça se penche de part et d'autre là-dessus. On parle de psychologie, mais de psychiatrie, de neuropsychologie, neurobiologie, on parle de physiologie, il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Le rêve reste extrêmement mystérieux et intéresse beaucoup d'experts, en tout cas, dans différents domaines.
Parce que quand tu dis physiologie, effectivement, admettons que tu as envie de pipi dans la vraie vie, ça va se refléter comme dans tes rêves.
Mais il y a plusieurs... Ça serait vraiment long et parce que il faut vraiment que je mette tout ce que j'ai hors chronique de côté. Là, parce que
sinon,
je suis pas une experte en rêve ici, moi, là. Mais il y avait beaucoup de choses par rapport à ça, dont il y a des aspects de la conscience qui sont éteints parce que sinon, on serait réveillé constamment. Donc, pourquoi certaines choses nous réveillent, d'autres pas? On a des noyaux dans notre cerveau qui... reste alerte ou d'autres pas. Donc, c'est quand même plus complexe que juste dire il y a un stimuli. C'est pas tous les stimuli qui vont se refléter, mais encore là, il reste qu'on a un système de survie. Puis lui, il nous lâche pas, il paraît.
Je comprends.
Alors, les approches du rêve, on en a parlé. Il y en a deux majoritaires, approche physiologique et approche psychologique. Dans le physiologique, d'après les recherches et les observations récentes, il apparaît que le rêve serait le moteur principal de la maturation cérébrale. Pour les chercheurs qui s'intéressent au développement physiologique de l'humain, le rêve aide au développement du système nerveux. Pendant le sommeil paradoxal, la phase active, là où on rêve, se formeraient les outils nécessaires à la communication et ça expliquerait en partie l'importance et la qualité du sommeil chez les nourrissons, qui est à son apogée complètement de toute notre vie, là. Chez l'adulte, on maintient en équilibre le système nerveux, on assimile, on filtre, on emmagasine, on jette toutes nouvelles connaissances et informations. Ça, c'est sur le plan physique et strictement physiologique dans les fonctions que ça peut avec lesquelles ça peut nous servir, que notre cerveau utilise le rêve pour faire. Sur le plan psychologique, psychanalytique plus précisément, c'est là qu'on entre dans cette idée du dialogue entre nos niveaux de conscience. Et tu as nommé l'inconscient tout à l'heure, donc on a le conscient, le subconscient et l'inconscient, toujours un petit peu plus profond. Puis on n'est pas seulement dans une gratuité de contenu cette fois-là, là, juste un filtre parfois fortuit, parce que certaines personnes considèrent les rêves comme un amalgame chaotique de choses inutiles, voire déjà vues ou peu importe. Et ça qui sert juste à se vider le cerveau, d'ailleurs. C'est à partir de 1790 que Lichtenberg, la notion d'inconscient, il l'a intégré et l'a relié au rêve. Et c'est le mot lui-même a été inventé là, d'ailleurs. Et dans la langue allemande, en tout cas. Et il y a 5 fonctions du rêve par rapport à ces deux grandes branches-là qui émergent. Les gens ne s'obstinent pas nécessairement, ils font leurs travaux et je pense que c'est à nous d'aller piger les choses qui nous intéressent ou qui nous interpellent à l'intérieur de ça. Première chose, dans la neuroscience, il y a Crick et Mitchison qui comparent le cerveau, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais lui, eux sont très, très physiques. C'est de la neuroscience, donc on étudie le cerveau et comment il fonctionne. C'est un... super ordinateur, le sommeil paradoxal, qui servira à effacer des blocs mémoire, des événements de la journée saturés par un flot d'informations inutiles. Les images du rêve sont le reflet de stockage des informations choisies et retenues. C'est un peu comme flusher une toilette, soit celle de notre cerveau. On vous avait juré qu'on parlerait plus de fluide, mais c'était le seul mot qui allait s'y référer. Promis. Pour le neurobiologiste Michel Jouvet, quant à lui, le sommeil paradoxal, là où on rêve encore, il est nécessaire à la maintenance, au maintien et à la sauvegarde de notre identité première. C'est une reprogrammation du système nerveux, une reprogrammation qui va jusqu'à la génétique, donc l'ADN. Lui, il parle de cellules et il nous ramène aux informations primitives de notre moi, celui que nous étions à la naissance, parce qu'on se redéfinit sans cesse, tant dans nos transformations physiques qu'intellectuel, Michel Jouvet nous rappelle que nos cellules changent à peu près aux secondes, ce qui fait qu'il y a tout le temps une espèce de remise à niveau qu'il faut faire, et les rêves pourraient servir à se redéfinir et à travailler cette empreinte génétique qui est toujours en changement. Freud. T'as déjà entendu parler de Freud?
Ben oui,
j'ai déjà entendu le nom, hein?
Absolument, l'ancien allié gauche des Kings de Los Angeles. Sigmund Palfi Freud. Non.
Pardon?
Oui, je fais le nono, là.
Pardon, Sigmund Freud. Oui. On parle du... celui qui a inventé la psychanalyse, mm-hmm. Également. Et pour lui, les rêves sont les gardiens du sommeil. Ces images oniriques-là sont l'expression de désirs travestis, de désirs refoulés. Et donc... inconscients qui peuvent s'accomplir ici sans danger. C'est comme si notre rêve nous offrait un environnement sain pour aller faire des affaires qu'on ne peut pas faire dans la vie.
Un peu comme la réalité virtuelle.
Bon, un peu comme la lutte versus la boxe. C'est ce qu'il en dit. Ça fait pas mal pour vrai. Parce que Freud, on va se le dire, tous ses travaux tournent autour des pulsions de mort, pulsions d'agressivité et pulsions libidinales de l'humain. Donc, tout ce qui est long, c'est phallique. Tout ce qui est rouge, c'est la mort. Non, mais tu sais, c'est vraiment très, très de base. Et d'ailleurs, il y a un livre qu'il a écrit, si on est intéressé à savoir plus sur son approche, qui s'intitule « Le rêve et son interprétation ». Alors que Freud est sur l'inconscient presque uniquement individuel, parce que pour lui, on ne peut pas défaire la personne, son vécu, sa journée et les images qu'il a reçues la nuit. On a son élève, Jung, qui d'ailleurs s'est séparé de son enseignant quelque part en chemin, qui lui parle plutôt d'inconscient collectif. Pour Jung, les rêves ouvrent sur un univers qui est beaucoup plus vaste que la personne. On parle d'un inconscient qui est collectif, donc qui est peut-être proche ou comme, qui appartient comme à tout le monde. Et c'est là où tous les archétypes, les symboles, tu sais, on a tous vu des livres 1001 symboles, tout ce qui est kabbalistique, tout ce qui est le tarot.
Ce serait comme un référent culturel collectif.
Tout ce qui est... c'est ça. Tout ce qui est l'archétype du vieux sage, l'archétype... On a toutes des images, là.
Ouais.
Et ça appartient à tout le monde. Tel animal est un symbole qui se réfère à telle chose pour à peu près tout le monde.
Et notre cerveau va aller piger dans cette banque de
données-là. Pour nous donner des messages de guidance.
Ouais.
Cette fois. Donc, on est dans un aspect informatif, prospectif.
Mais là, attends, ça veut dire que quelqu'un, mettons, en Russie, genre, si on faisait une base de données des rêves en Russie versus ceux en Afrique, comme ils n'ont pas les mêmes référents, les rêves seraient différents.
Faudrait vraiment étudier ça parce que ça va jusqu'au collectif communautaire, pays,
à petite échelle aussi,
mais mondial.
Genre.
Oui, donc tu as le micro
mais
du
mondial
macro.
Aussi. Ouais, c'est vraiment intéressant.
De l'humanité, tu sais. Ouais, moi, je c'est ça. Donc, pour Jung et comme pour Freud, le rêve, c'est la voie royale qui mène à l'inconscient sans équivoque. Et si on a de la difficulté à se rappeler de ses rêves, il y a plusieurs trucs qui existent. Juste de se dire « je me rappelle de mes rêves » dès maintenant, se mettre un post-it le matin, éviter les alarmes, tout court si on peut le faire, pendant l'exercice, surtout quand on commence. Sinon, mettre un alarme très, très lente, pas de la radio, parce qu'on va avoir des pubs puis des paroles qui vont venir mélanger les images, pour avoir vraiment un retour progressif. Toujours avoir un bloc-notes à proximité de nous. Moi, je choisis le dictaphone. Comme ça, dans les éveils nocturnes, ça me mélange moins. Puis ça va plus vite. Je me rappelle des détails plus rapidement.
Okay.
Et on note vraiment tout. Comment on s'est senti? Il mouillait-tu ou il faisait soleil? Les dialogues qui ont été faits? Combien qu'il y avait de personnes? J'avais les cheveux? Quelle couleur? Tout ce qu'on peut se rappeler. Et après, on y va dans la section questions. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il faisait soleil? Pourquoi il pleuvait? Est-ce que ça peut être une partie de moi? Sinon, qu'est-ce que ça peut être? Si oui, c'est quelle partie de moi? Et là, on va s'habituer à revoir certains symboles, on va relier certaines choses et on va devenir des experts. Amusez-vous, C'est le fun.
Dire à nos enfants que le monde leur appartient.
Ginano, Ginano.
On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Ginano, Awad.
Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger.
Ginano, tu m'es
grand. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. Les paroles de cette chanson veulent changer la face du monde, veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre. Je suis peut-être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j'y crois. La plume au bout des doigts, j'écris une page de l'histoire. On est fort ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Si ensemble qu'on vaincra, si ensemble qu'on en dira, que sur les terres du Canada, on est encore là. On est fort et fier, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. C'est le cri de la victoire, c'est le cri de la liberté, c'est le cœur des guerriers, c'est la voix des oubliés.
Ginano, Itzendo.
Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient.
Ginano, Ginano.
On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Ginano, Awad.
Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger.
Ginano, tu m'es grand.
Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer.
Ginano,
on n'est pas les victimes, mais une autre génération. Celle qui a le pouvoir de nous offrir un horizon. De rattraper le temps perdu, de rendre hommage aux aînés. Les rassurer en leur disant qu'on ne va pas abandonner. Ce sera long. Et les épreuves seront tenaces. Faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace. En l'honneur de leur mémoire, on marchera sur leur trace. La tête haute comme des bras, parce qu'ici c'est notre place. Sans oublier qu'on est l'espoir de demain. Qu'on a le pouvoir de réparer, de bâtir le monde de nos mains. Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble, solide. Car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide. Mais qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Ginano, Awad.
Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger.
Ginano, tu m'es grand.
Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer.
Ginano,
alors on chante sur les pas du Makusha. Avec l'odeur de la sauge pour purifier nos âmes.
Ginano,
et tant qu'on se lève, qu'on prenne position, on nourrisse nos rêves d'espoir et d'ambition.
De retour à l'émission, on va parler d'archéologie aujourd'hui parce que le mois d'août, c'est le mois qui est consacré au Québec à l'archéologie. Et on a avec nous, au bout du fil, Caroline Nantel, la présidente des réseaux archéo, qui semble-t-il, Caroline, vous approuvez le choix musical d'Emmanuel.
Mon Dieu, il n'y a pas de secret.
Les nouvelles se transmettent
tout
vite
ça,
à Canal
M.
Vite, bonjour.
Bonjour, Madame Nantel. Ben oui, on vient d'écouter Samiane, qui est votre porte-parole.
Notre super porte-parole.
Et c'est un porte-parole en or, parce que Samiane, je pense qu'il n'y a pas une chanson qu'on parle pas de peuple, de terre ou de racines, sincèrement.
C'est vrai. De racines, effectivement, puis de mise en commun, puis de bâtir un meilleur futur pour l'ensemble des citoyens de la planète. Mais en fait, on s'est pas du tout trompé. Il a embarqué dans cette belle aventure-là avec nous à pied levé, mais surtout, il est tombé dedans, puis c'est un ambassadeur de cœur, puis de passion. C'est tellement le fun de l'entendre parler à notre place.
C'est un mariage, oui, puis c'est un mariage naturel parce qu'on connaît son influence et sa collaboration et son travail auprès des Premières Nations. Puis quand on parle d'archéologie, ben ça va comme de pair. On n'a pas vraiment
Québec,
le choix.
En
tout cas, au Québec, certainement, on n'a pas vraiment le choix de parler également des Premières Nations. Et là, c'est votre 15e anniversaire. Est-ce que vous diriez que vous aviez voulu encore plus davantage mettre l'accent sur cet aspect-là de l'archéologie?
L'espèce d'aspect de réunification.
Oui, avec les...
Mais en fait, on le traite avec la racine parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, le 15e anniversaire du mois de l'archéologie, le mois de l'archéologie s'est décliné dans toutes sortes d'aspects depuis 15 ans. Mais cette année, on a vraiment souhaité marquer le pas en disant la préhistoire du Québec est très ancienne, mais est quand même récente par rapport à la préhistoire de l'ensemble de la planète, parce que ça arrive pas au même moment partout. Et puis, de 12 000 ans à aujourd'hui, on peut présumer qu'on raconte, l'archéologie raconte la préhistoire des ancêtres des Premières Nations comme on les connaît aujourd'hui. Fait que quand on remonte la racine du temps, il faut s'ouvrir aux cultures différentes, là, vraiment, vraiment. Et puis, Samiane, c'est peut-être la meilleure voie pour justement toucher les cultures autochtones, toucher les Premières Nations, puis toucher aussi la relève, puis monsieur, madame, tout le monde là, de différentes cultures.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne opportunité? Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour parler de patrimoine archéologique en ce moment au Québec, avec toute la question qui concerne justement le patrimoine culturel au Québec. C'est comme la bonne occasion de faire comprendre aux citoyens qu'en fait, la plus grande partie de notre patrimoine, elle se trouve peut-être dans notre sous-sol puis sous nos pieds.
Exactement. Puis pour le protéger, il faut faire de la sensibilisation. Puis c'est ce que le réseau Archéo-Québec fait depuis... en fait, il existe depuis 20 ans. On fête à la fois le 15e de l'activité du mois de l'archéo puis les 20 ans d'existence du réseau porté bien souvent à bout de bras par des gens passionnés de patrimoine. La mission première, c'est celle de favoriser la diffusion parce que ce patrimoine-là archéologique qui est partout, qui repose dans bien des cas, partout dans nos sous-sols, dans le sous-sol de la province.
Ouais, au sens figuré, au sens littéraire, des fois.
Oui, exactement. Et hyper fragile parce que l'espèce la notion de faire de l'archéologie appelle à la destruction de ce patrimoine-là. Donc, sensibiliser les gens à ce qui se passe dans leur sous-sol et ce que ça représente, la valeur historique, la valeur identitaire, la valeur de connaissance, c'est hyper important. Fait que nous, on forme des ambassadeurs et puis on le fait de façon ludique, de façon scientifique. On propose quantité d'activités pour pouvoir apprivoiser ce que c'est que l'archéologie puis pour pouvoir lever le drapeau, le cas échéant, pour justement le protéger, se mobiliser, puis le mettre en valeur.
Justement, moi, Caroline, j'habite dans Griffintown. Et là, il y a des constructions qui se font. Moi, chaque matin, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel édifice qui a poussé. Et juste à côté de chez moi, il y a un édifice sur la rue Ottawa qui est en train de se construire. Et semble-t-il que les anciens bassins de la rue, du canal de la Chine se rendaient jusque-là. Et puis je me dis, c'est pas possible qu'on porte pas une certaine attention à ce qui se trouvait sous nos pieds là.
Oui.
Est-ce qu'il y a un travail qui est fait entre la ville et les contracteurs pour essayer de préserver un maximum de cet héritage culturel là sous nos pieds?
Oui, en fait, c'est un maillage qui est essentiel à la protection du patrimoine archéologique et qui est obligatoire.
Oui.
Alors, il y a vraiment, les archéologues arrivent en amont du projet, souvent bien en amont du projet de construction pour justement faire les fouilles qui se doivent d'être faites ou de faire les avis archéologiques ou de valider parce que parfois il reste des lambeaux, parfois ça a été détruit.
Ouais.
Oui, on intègre l'archéologie en amont des grands projets de développement immobilier, justement pour s'assurer qu'on détruit pas tout ça sans prendre bonne note de ce qui s'est passé préalablement à cet endroit-là. Fait que oui, les archéologues sont de tous les grands projets, puis c'est peut-être pour ça qu'on en entend beaucoup parler cette année, et puis ça, c'est pas parce que c'est notre 15e anniversaire, c'est qu'on est en pleine effervescence de grands projets de développement immobilier dans les grandes villes, en région aussi, puis je dis des développements immobiliers, mais c'est aussi développement de réseaux autoroutiers.
Le REM.
Oui, effectivement, les transports. Fait que l'archéologie, c'est pas la saveur du mois, c'est pas la saveur du jour. Ça doit accompagner chacun des grands projets de développement. Puis tous les projets qu'Archéo-Québec fait, c'est aussi ça. On va développer des guides à l'intention des urbanistes, des aménagistes puis des municipalités, surtout les municipalités, parce que les grandes villes ont ce pouvoir d'avoir des grandes équipes pour travailler avec eux, parce que souvent les petites municipalités ont pas accès à ce type de soutien-là. Donc, on travaille vraiment à favoriser l'appropriation de cette connaissance-là, puis toute la mécanique pour intégrer justement l'archéologie en amont des grands projets.
Et c'est tellement important de prendre conscience de ce qui se trouvait sous nos pieds lorsqu'on se rend soit chez soi, soit dans un grand réseau de transport, dans un édifice. Ça nous fait comprendre qu'on ne devrait pas tenir pour acquis ce qu'on a tous les jours, qu'il y a une histoire qui est passée par là, qu'il y a des gens qui sont passés par là avant nous. Et c'est une bonne manière de le comprendre. Et là, vous avez des activités qui se déroulent sur le territoire québécois au complet, dans toutes les régions. À Montréal, il y a Pointe-à-Calière, le festival Présence autochtone. Il y en a plusieurs, mais si je devais vous demander de nous en nommer un ou deux à mettre à l'agenda pendant le mois d'août, ce serait lesquels?
La question qui tue pour moi, qui les pose toutes avec autant d'amour, il y en a pour tous les goûts. Alors,
Allons-y, un pour les néophytes puis un pour les érudits.
Voilà, bonne idée, Marielle.
Hein? Mon Dieu, un pour les néophytes. Attendez, là, il y en a...
Genre tellement... moi, mettons, là, qui n'a aucune idée de ce qui se trouve sous nos sols.
Genre vous, peut-être une simulation de fouille. Fait que c'est sûr qu'aller visiter des grands bâtiments historiques, c'est ce qu'on fait quand on va en visite dans les vieux pays. Hein? On va visiter les cathédrales, les quartiers historiques. Une balade dans le vieux Montréal, c'est aussi ça pour les néophytes. S'approprier le patrimoine bâti qui est ancien, s'approprier aussi être attentif parce que souvent, les aménagistes, on ne peut pas tout mettre dans les musées. Mais dans le vieux Montréal, on peut retrouver des traçages au sol, des tracés au sol qui rappellent les fortifications. Fait qu'il faut être attentif.
Tu
vas aller faire de la simulation de fouilles. Je pense à l'arrondissement de la Chine, la maison d'hiver de Saint-Dizier. Bien là, vous faites comme les vrais archéologues dans un vrai faux puits. Parce qu'on a recréé un milieu de travail pour que vous puissiez expérimenter cette étape de la recherche scientifique qui est celle de la collecte d'informations. Fait que ça, c'est le fun.
En plus, c'est vraiment super le fun. Oui, c'est ça. Moi qui aime tellement participer aux activités. Il nous reste vraiment une minute ensemble, Mme Nantel. Le deuxième, celui pour ceux qui sont très habitués, qui s'y connaissent.
Ceux qui sont plus habitués, peut-être la réserve de la collection archéologique de la Ville de Montréal. Alors là, tous les objets archéologiques ne vont pas nécessairement tous dans les musées, mais ils se retrouvent tous, ceux de Montréal, à la Grande Réserve, puis on ne l'ouvre pas souvent au public. Fait que moi, quand j'y vais, j'ai l'impression que c'est comme un magasin de Noël. J'ai pas assez d'yeux pour tout voir. Et puis, il y a des objets inédits. Fait que oui, une visite guidée de la réserve, ça pourrait être intéressant. Mais si vous vous promenez, si vous avez encore des vacances, allez sur le site moidelarchéo.com puis préparez peut-être votre petit itinéraire d'escapade en regardant ce que le réseau vous offre, ce que les lieux vous offrent. 80 activités dans 40 lieux, c'est assez le fun.
Merci beaucoup.
Des gratuites, pas gratuites.
Archéo-Québec.com. Merci beaucoup, Caroline Nantel, présidente des réseaux Archéo.
Bye bye.
On revient tout de suite dans un instant à Aime l'été. Tellement intéressant.
Vous écoutez Aime l'été.
Hey! On est plus seul en studio.
J'oublie toujours cet indicatif. Tellement intéressant ce segment sur l'archéologie que j'allais mentionner. Et c'est pas terminé, il y a encore bien d'autres sujets passionnants qui arrivent, dont les technologies de la musique de demain présentées par Jean-Sébastien Laliberté. Et on va aussi parler d'un festival que j'aime beaucoup à Sherbrooke.
Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh.
L'insaisissable Björk avec It's Oh So Quiet, choix musical de notre prochain invité en studio, Jean-Sébastien Laliberté. Salut!
Bonjour!
De l'autre côté des choses, c'est, dirons-nous.
C'est assez rare que je traverse de ce côté-ci du bocal. Je reste généralement du côté à
l'oui. Où Mathieu se trouve actuellement pour faire en sorte que nos micros fonctionnent et qu'on se rejoigne à la maison ici en studio.
Bienvenue.
Mais là, t'es de notre côté.
Bienvenue chez les vrais.
T'es de notre côté pour nous parler de techno-musique, pas de musique techno, mais de la technologie musicale. Parce qu'on n'est pas tous fans de musique techno, mais on est pas mal tous fans de musique, plus de gens, en tout cas, ça rejoint un plus grand bassin. Et la musique a, elle aussi, besoin de technologie, c'est pas juste de la créativité.
Oui, et je ne parlerai pas de la technologie pour ce qui est des musiciens, des créateurs, mais vraiment de l'autre côté, en tant que consommateur, comment est-ce qu'on
chronique
peut...
Chronique autre côté!
Chronique...
Même thématique.
Donc, j'ai déjà parlé, un autre jour, Kevin a manqué ça, malheureusement, des technologies, bon, les CD, les cassettes, comment qu'on peut consommer la musique de façon traditionnelle, de façon conventionnelle, que tous les gens peuvent connaître. Mais là, on va aller vers les façons originales, marginales même, de consommer la musique. Et des fois, bon, c'est carrément des gimmicks de marketing. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même des démarches qui peuvent être intéressantes. Et on commence avec Björk, artiste islandaise.
Oh, il y avait un lien!
Ben oui, il y avait un lien. Il y avait un lien.
pour qui je te prends?
Quand donc, même. Elle a participé à une exposition au New York Museum of Modern Art, le fameux MoMA. Expo à laquelle on a placé environ 6000 déflecteurs de feutre et 49 speakers, 49 haut-parleurs, pour créer un environnement sonore 3D. Donc, il y en avait sur les murs, il y en avait au plafond, on rentre, c'est comme un grand
tunnel. C'est le 5.1 surround peut aller se rhabiller.
Oui, on est très, très loin du 5.1. On est dans le 49.6000. Et la chanson Black Lake d'un des albums de Björk, une chanson qui dure une dizaine de minutes, était lancée dans diverses directions via les déflecteurs. Et quand on suivait un trajet spécifique à travers la pièce, on pouvait entendre l'intégralité des 10 minutes de cette chanson. Chaque pouce correspondait à une seconde de la pièce. Ce qui fait que si on reste sur place, on entend le même son. Si on va dans un autre trajet, on fait littéralement un remix de la pièce. Donc, c'est les calculs que ça a dû prendre pour venir à faire un trajet et à isoler les sons.
Que ce soit réussi, là.
Oui.
Le nombre de techniciens, d'ingénieurs expertisés, genre, pour créer ça, c'est sûr que ça en a pris quelques-uns.
Ouais. Fait que c'est comme je dis, c'est très, très intriguant. J'aurais bien aimé y aller, mais malheureusement, ben, l'exposition est en 2015. Et bon, New York, c'est pas non plus la porte à côté.
Mais donc, si ça avait été une chanson de Kiss et qu'on avait été de reculons, on aurait pu entendre des messages « Gloire à Satan ».
J'aime comment tu penses, Kevin.
C'est pas Kiss, hein? C'est Led Zeppelin.
Il y en a plusieurs, je crois.
Ouais, c'est pas grave. Mais le 666, le fameux, là, ouais, c'est Led Zeppelin.
The Flaming Lips, une formation américaine, eux ont sorti leur 8e album intitulé Zarika. On est en 1997, c'est un petit saut de 20 ans en arrière, mais néanmoins, je trouve que c'est quand même assez notable. On sorti ce 8e album sur 4 disques. Donc, pour entendre l'album au complet, fallait faire jouer les 4 disques.
En simultané?
Oui. Donc, ça prend 4 speakers, 4 speakers,
en
4 stéréos.
En simultané, excuse, c'est le bout que j'avais manqué.
Ouais.
Oui, donc c'est pas chanson 1, 2 sur un disque, 3, 4 sur l'autre disque. Non, non, c'est chanson 1, il y a une partie des...
Ben, des fond,
quand on est en studio, on enregistre, disons, la guitare sur une piste, la voix sur une autre piste, etc. Donc, on a
la piste des cuivres dans le disque 1, la voix sur le disque 2, percussions sur le disque 3 et les cordes sur le disque 4.
C'est à peu près ça.
Ben,
donc, ça nous prend quand même 4 stéréos pour le faire jouer. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire jouer une chanson comme en double deux fois en même temps. Il faut partir exactement au bon moment pour que ça sonne. Là, partir 4 disques au même moment, c'est quand même un exploit. Puis qui a 4 systèmes de son chez eux qui peut faire jouer 4 CD?
Mais ils se sont dit, les chums vont se rassembler ensemble, on va être rassembleurs, on sait pas.
Donc, il y avait possibilité finalement d'écouter une version plus simple de l'album en écoutant juste, disons, la batterie et la guitare.
Moi, la voix, ça m'intéresse pas, c'est ça.
Et ils n'en sont pas restés là, de Flaming Lips. Ils ont sorti également en 2011 un EP caché dans un gros crâne en bonbon. Donc, il y a une clé USB qui est cachée au centre d'un bonbon avec un crâne taille réelle en bonbon et il faut manger ou licher ou en tout cas, faut passer à travers le bloc de bonbons pour se rendre à l'album.
Mais ils ont pas commercialisé, hey, on va vendre des bonbons. Ils ont dit, on va vendre un EP, mais on va vous le mettre dans un bonbon. Ou si c'était une surprise, ils se sont juste levés un matin.
Je pense que c'était une édition limitée. Comme on va faire, mettons, 100 crânes en bonbons, sans album. Puis si vous en voulez, ben.
Manger des bonbons.
Ouais.
Dans le moins pratico-pratique, le groupe britannique Massive Attack a sorti un album en aérosol.
Pardon?
Ils ont encodé leur album, ils ont encodé les fragments d'ADN de l'album dans un aérosol sur des micro-billes. Et pour écouter l'album, donc là, on va vraiment dans le « faut avoir du temps à perdre un petit peu », on achète l'aérosol. On vaporise l'aérosol, disons, sur un mur. Ensuite, on gratte la peinture pour avoir tous les morceaux de microbilles, de fragments. Après ça, il faut récupérer tous les fragments de façon intégrale et reconstruire dans le bon ordre le disque à l'aide des fragments d'ADN.
Et personne n'a jamais réussi à faire ça?
Je ne pense pas, non. Et je n'ai pas vraiment envie
En tout cas, si on voulait passer une soirée relaxe à écouter de la musique, c'est pas... Tu te lèves à 7 heures le matin, tu prends 4 cafés puis tu commences.
Ouais. Puis on se le cachera pas. Massive Attack, c'est pas si bon que ça. Là. Si c'était les Beatles, OK, mais Massive Attack, ils se prennent pas pour des deux de pique.
J'avais déjà parlé dans une autre émission de Beck qui a sorti un album qui s'intitulait Song Reader. C'est un album sous forme de partition qu'on doit jouer. Bon, littéralement, c'est d'une façon de dire. Il a sorti un album sous forme de partition. Une autre façon de dire ça, c'est qu'il a composé des chansons, il a écrit un
livre.
Mais moi, j'aime bien.
Il les a jamais joués lui-même et il a fait, si vous voulez les jouer, apprenez-les, puis vous aurez absolument aucun frame en bon français, aucun cadre de base pour m'imiter.
Ouais.
Faites-en votre version.
Mais la démarche artistique, je trouvais vraiment fun.
Bon.
Jack White, qu'on a connu dans notamment les White Stripes, c'est dans une multitude d'autres formations musicales que j'ai de la misère à suivre.
L'acteur principal dans School of Rock.
Ça, c'est Jack Black.
Moi, je confonds les couleurs des fois.
C'est blanc, noir.
Il a sorti un vinyle, un 33 tours, à l'intérieur duquel était caché un disque vinyle de 45 tours. Donc, comme le principe des poupées russes, ça prend un couteau pour ouvrir sur le côté le disque vinyle, l'ouvrir et ressortir le disque vinyle de l'intérieur du disque vinyle.
Mais pourquoi? Est-ce qu'il s'est justifié à quelque part sur une tribune?
Juste une grosse pochette.
Je veux entendre ça.
Et dans ce même esprit, Jack White, toujours, qui a sorti un 33 tours avec 56 chansons. On sait qu'un disque vinyle est à peu près 22 minutes de musique par côté, donc à peu près 45 minutes sur un album. Les 56 chansons ont été encodées plus rapidement pour pouvoir tout rentrer sur le disque. Donc, pour pouvoir les lire à une bonne vitesse, il faut que le disque, au lieu de tourner à 33 tours minutes, il doit tourner à 3 tours minutes. Les tables tournantes ne tournent pas à 3 tours minutes, donc il faut prendre son doigt.
Puis faire juste comme...
technologie, hein, qu'on appelait la technologie.
gimmick marketing. On va finir avec Max Tundra, un artiste un peu moins connu que Beck, Jack White et les autres. Un artiste de musique électronique. Lui a sorti un album dans une canne de soupe. Donc, on imagine sa soupe au poulet en canne préférée. Mm-hmm. On remplace l'étiquette par une pochette d'album et à l'intérieur, il y a un code à l'intérieur de la canne, non pas à l'intérieur de comme sur, ouais, pas sur l'étiquette. On ouvre la canne et à l'intérieur, il y a de la soupe et il y a un code de téléchargement MP3. C'était possible de trouver des reviews, des critiques de l'album. Je n'ai cependant pas trouvé aucune information à savoir est-ce que la soupe, elle était bonne.
Eh bien, merci Jean-Sébastien, on en saura plus. Eh bien, ça ouvre à tous les artistes du monde des possibilités, ma foi, saugrenues et infinies. Voilà.
Chuva na chon trabalha a terra. Um pouco mais sem chata. Chuva na chon trabalha a terra. Três ingrônimos, dois ingrônimos. Pois dá algum tempo a fazer monda. Três ingrônimos, dois ingrônimos. Pois dá algum tempo a fazer monda. Planta cresce, mal pede água. Chuva de setembro é uma esperança. Planta cresce, mal pede água. Chuva de setembro é uma esperança. Se chuva capim, atinge um pouco. Boa enxada pra nada. Bom trabalho pra nada. Boa enxada pra nada. Bom trabalho pra nada. Um pouco mais sem chata. Chuva na chon trabalha a terra. Um pouco mais sem chata. Chuva na chon trabalha a terra. Três ingrônimos, dois ingrônimos. Pois dá algum tempo a fazer monda. Três ingrônimos, dois ingrônimos. Pois dá algum tempo a fazer monda. Planta cresce, mal pede água. Chuva de setembro é uma esperança. Planta cresce, mal pede água. Chuva de setembro é uma esperança. Se chuva capim, atinge um pouco. Um bom enxada pra nada. Um bom trabalho pra nada. Um bom enxada pra nada. Um bom trabalho pra nada. Um bom enxada pra nada. Trabalho pra nada, um boi enxada pra nada, um bom trabalho pra nada.
De retour à M l'été. On vous parle souvent cette année, cet été, des nombreux festivals qui ont lieu non seulement à Montréal, mais un petit peu partout à travers le Québec. Et moi, je suis toujours content de renouer avec mes racines sherbrookoises parce que j'ai étudié 4 ans à Sherbrooke. Il y a un festival auquel j'aimais bien assister. C'était juste avant le retour à l'école, à l'Université de Sherbrooke. C'était le Festival des Traditions du Monde qui avait lieu au Parc Quintal. Je sais plus si ça a toujours lieu là-bas, du 7 au 11 août. Et je suis bien heureux de faire découvrir ce festival-là à nos auditeurs aujourd'hui. C'est le Festival des Traditions du Monde et on a la directrice pour en parler au bout du fil, Malika Bajaj. Bonjour Malika.
Bonjour.
J'imagine que là, le festival est déjà commencé, il bat déjà son plein. Est-ce que vous êtes heureux de l'achalandage jusqu'à présent?
Ah oui, nous sommes vraiment très heureux jusqu'à maintenant pour l'achalandage. Juste pour vous donner un exemple, avec notre spectacle d'ouverture avec Zachary Richard, on a affiché complet, nos chapiteaux thématiques étaient pleins. Hier soir, la même chose, vraiment, nous sommes vraiment super heureux de l'achalandage et vraiment de l'effervescence que le festival connaît actuellement.
On vient d'entendre Luci Bella, moi je vais le dire comme ça parce que je me trouve un accent puis je trouve ça joli. C'est l'un des artistes qui va faire partie du festival et c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir des artistes qui viennent partout dans le monde. Ouais. Vous avez vraiment une programmation qui est différente et qui permet des découvertes absolument fantastiques.
Oui, vous avez tout à fait raison. Nous, notre programmation, c'est diversifié. On met accent vraiment sur la découverte et on a toujours une proportion très importante des artistes qui viennent d'ailleurs, des artistes internationaux. Et aussi, on a des artistes issus de la diversité ici et on a aussi des artistes qui vraiment, leur répertoire et leur musique, c'est la fusion, c'est le mélange de styles. C'est ça notre identité. En réalité, utiliser le chant et la musique comme un moyen de rapprochement entre les cultures. Et on a beaucoup vraiment de musique qu'on choisit due à l'influence vraiment de la musique d'ailleurs sur tout ce qu'on peut vraiment choisir pour que ce soit que la musique une langue parlée et partagée par tous nos festivaliers.
Et il y a un aspect artistique très important à ce festival, mais c'est pas le seul aspect qu'il y a. Il y a aussi un aspect culinaire et c'était certainement le meilleur appât pour m'emmener jusque là-bas parce que c'est aussi l'occasion de découvrir de la bouffe à travers le monde. Ça prend encore une dimension importante dans cette édition-ci qui est la 22e édition?
Mais oui, c'est une très bonne question. Vous avez tout à fait raison parce que notre festival, oui, il est connu par la bonne musique, la découverte, par le chant, par la danse. Mais vous avez raison, on a aussi un coin gastronomique avec 17 restaurants qui représentent 17 pays et régions. Pourquoi on a des restaurants ici, plus la place de la famille, toutes les autres attractions qui viennent vraiment compléter notre programmation artistique pour offrir aux festivaliers en réalité une expérience immersive et un vrai voyage à travers vraiment les sens. C'est pour cela, quand les festivaliers arrivent ici au festival, qu'ils viennent d'ailleurs de Montréal, de Québec, n'est pas obligé de sortir sur notre et s'ils sont en famille, s'ils sont des jeunes en couple ou célibataires ou entre amis, elles vont venir sur le site, mais ils trouvent tout ce qu'ils veulent vraiment. Il y a les amusements, les activités, l'animation sur le site, il y a vraiment la gastronomie et il y a aussi les spectacles et de chants, de musique, tout. C'est une expérience vraiment qu'on offre à nos festivaliers.
Une expérience complète. Et moi, je suis assez d'accord que le meilleur chemin pour aller faire découvrir les autres cultures, c'est certainement par l'estomac. Et ça,
c'est vrai.
Ça fait 22 ans, donc, les éditions du Festival du Monde à Sherbrooke. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration dans ces 22 dernières années-là. Il continue d'en avoir de nouveaux personnes d'origine ethnique différente qui se joignent à Sherbrooke et au Québec. Donc, il y a une diversification de l'offre. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi un plus grand attrait de la population locale pour les autres cultures?
Et comme vous savez, le festival, il est vraiment ici très, très, très représentatif par la diversité culturelle ici. Et nous, comme je vous ai dit, il y a le volet artistique et on a aussi nos chapiteaux thématiques qui représentent plusieurs origines, comme on a le Palais de l'Orient pour représenter vraiment la culture orientale, et tous les orientaux de la région se sont fiers de partager leur culture, le pop irlandais pour les Irlandais, et le, comment dire, à l'époque on avait aussi les portes de l'Asie et on a aussi le Shack d'Amérique. Et juste pour juste vous dire, nous, le but de ça, c'est créer un lieu d'échange qui est très représentatif pour notre communauté. Et en même temps, la ville de Sherbrooke, c'est une ville effervescente en diversité. Et ces gens-là, ils ne se voient pas toute l'année. Mais le festival, c'est une occasion de venir et de se côtoyer et de s'harmoniser entre eux. C'est une manière aussi pour nous que de faire tomber les frontières à travers, par les moyens de la culture, qui est la musique et le chant et tout ça.
Oui, et c'est déjà commencé, ça continue ce soir. Jennifer Groot, accompagnée par Katam à 19h. Il y aura également Yves Lambert, Trio, plusieurs autres artistes qui seront... On a simplement à se rendre au ftms.ca pour savoir quels sont les artistes qui vont se présenter au Parc Quintal. C'est donc une invitation à lancer à tout le monde, à ses meilleurs amis, à sa famille, pour s'y rendre et célébrer la culture de tous et de toutes. Merci beaucoup, Malika, d'être venue nous parler de ce festival que j'aime beaucoup, qui occupe une place importante dans mon cœur, le Festival des Traditions du Monde de Sherbrooke. Un petit peu. Bonne occasion de retourner à Sherbrooke, peut-être en fin de semaine.
Oui, c'est ça.
Ah, ben, je vous invite tous, les gens de Montréal, venez nous voir. Vous n'allez pas être déçus. C'est un bon festival. C'est un vrai voyage.
Merci beaucoup, Malika.
Merci.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Est-ce que tu reconnais cette guitare qui est très marquée, marquante d'un des groupes phares des années 90?
Cesse de tester mes aptitudes musicales manuelles. Je m'humilie de semaine en semaine.
Bah, okay, mais non, mais
ça
tu
me
peux
dit
me
vaguement quelque chose, mais je ne serais pas capable de mettre le doigt sur.
Je te donne le droit de me poser une question sur le hockey par semaine.
Ah,
si
OK.
Je continue,
dans ce cas-là. Dans
c'est,
ce cas-là.
Non, c'est ta façon. Pour chaque question musicale que je t'envoie, tu peux m'envoyer une question de sport, dans. Effectivement. On vient d'entendre le groupe Sugary avec la chanson Make It Easy, qui est une. Oui, Sugary, un groupe phare des années 90 qui sort son premier album en 10 ans. C'est ce que nous apprenait le magazine Rolling Stone, le groupe qui nous avait offert les hits Every Morning et Fly. I just wanna fly. I wanna want, I wanna want, I wanna want. Je disais vraiment n'importe quoi. J'avais aucune idée. Bon, donc ce groupe qui nous a offert ces deux merveilleux singles, très populaires singles, s'est vu sortir son dernier album, Music for Cougars, en 2009. Make It Easy est le premier single de ce nouvel opus dont Mark McGrath est le chanteur. Il est aussi animateur à la radio satellite Sirius XM du channel, d'une émission sur le poste 90s, donc oui. Les années 90. Donc, c'est assez clair. Le nouvel album est prévu en 2019 et il s'intitulera Lil Yachty. Yachty, mot dont je n'ai aucune idée comment le prononcer. Je n'ai non plus trouvé aucune définition, mais j'imagine que ça fait un peu partie de l'art. Voilà. Ça va être le fun. Et avant qu'on se laisse pour cette deuxième partie d'émission, on va revenir encore avec un invité en studio. Petit message de la part de nos amis les canards, ne pas donner de pain parce que ça les rend malades, ça pollue l'eau et ça tue leur poisson. C'est gagnant pour personne. Si on va sur le bord des lacs, si on veut nourrir les canards, c'est du riz cuit, du maïs, des raisins sans pépins, de l'avoine, des graines pour oiseaux ou de la laitue. Point final.
Vous écoutez Aime l'été.
Le rire de Benoît.
Hey!
Hey, je pensais pas rentrer là.
Hey, c'est vendredi, ça paraît tellement
c'est
Kevin.
Ça. C'est parce qu'il y a trop d'action en studio ici autour. Notre prochain invité qui est pas très loin, puis là, on l'entend ricaner jusqu'ici.
Et on l'entend ricaner jusqu'ici. Effectivement, on sera pas toute seule en studio pour terminer ce dernier segment de l'émission. Vendredi 9 août, on part en vacances tout de suite après, au moins pour la fin de semaine.
Moi,
c'est
je m'en vais
cas,
à Ottawa. Je prends mes clics, mes claques, puis je m'en vais à Ottawa passer trois jours
vrai?
Là-bas. Oui.
Ben moi, plutôt que de retourner sur la rive sud, je reste sur l'île avec une amie. Donc, j'espère que vous avez aussi des plans qui vous mettent le sourire au visage.
Profitez-en parce que l'été achève. Je trouve ça plate de le dire, là, mais l'été achève.
Ben voyons, t'es
bien. Je suis pessimiste, mais en tout cas.
Ben voyons.
Non, mais je veux dire, profitez-en, carpe diem.
Carpe diem. Emmanuel Robitaille, Kevin Breton qui reste avec vous encore pour 30 minutes et dans quelques instants, Simon Boulris se joint à nous.
Le ricaneux.
Et un petit peu plus tard, tu nous parles de comment survivre encore une fois et comme toujours à toutes sortes de choses. Kevin, ton billet d'humour cette semaine, c'est comment survivre aux avions.
Alouette, chantier Alouette. Alouette, je t'ai plumeré. Alouette, gentille Alouette. Alouette, je t'ai plumeré. Je t'ai plumeré la tête. Et la tête. Alouette. Ah. Alouette, gentille Alouette. Alouette, je t'ai plumeré. Alouette, gentille Alouette. Alouette, je t'ai plumeré. Je t'ai plumeré les yeux. Je t'ai plumeré les ailes.
vient d'entendre Alouette, bien sûr, qui est un classique de notre enfance. Une chanson qui a été prise sur l'album Chante avec moi, volume 1, qui sont des livres, finalement, pour enfants qui sont chantés. Et je ne sais pas si tu lisais, toi, Kevin, quand tu étais jeune.
Ben moi, c'est drôle parce que j'en parlais hier avec ma blonde, le fait que j'avais la collection complète des chars de poule.
Mais je pas, mais je vous écoutais par la fenêtre. Ça m'a l'air punché là-dessus demain.
Mais j'aimais la couverture, puis il y avait mon esprit collectionneur, puis j'aimais ça de savoir que tout cet univers-là était relié puis interconnecté, mais je lisais jamais les livres. C'était juste d'avoir la collection dans ma bibliothèque.
OK, fait que c'était que comme
un genre de pre-orders, symptômes pre-orders que j'avais en moi à ce moment-là déjà.
Ben écoute, moi, j'en ai déjà parlé en ondes ici au Canada, mais je vais le répéter. Lire pour moi, c'était une activité. J'étais quelqu'un qui y avait beaucoup d'activités solitaire jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Et une de mes activités préférées, c'était de prendre tous mes livres que j'avais, toutes les mettre dans le milieu de ma chambre à terre, en piger un, le lire, le mettre de côté. En piger un, le lire, mais c'était à la limite un peu weird. Et non, mais c'est ça. Et bien sûr, ça a forgé mon enfance. Ça a joué un rôle absolument important, ces livres-là. Il y a des gens qui les écrivent, ces livres-là. Oui. Et ça existe depuis fort longtemps, mais c'est la première année, la première édition ici à Montréal, qui est un festival de la littérature jeunesse, le Festival de la littérature jeunesse de Montréal, bien qui aura lieu le 11 août prochain à Lachine. Une seule journée pour célébrer la littérature jeunesse et susciter l'envie de lire chez nos jeunes. Et qui de mieux que l'auteur, le romancier, le dramaturge, le metteur en scène, poète et comédien et bien sûr écrivain pour nos jeunes? Simon Boulris, comme porte-parole de l'événement qui est avec nous.
Voilà,
aussi.
Bonjour.
Hey, nous, il faut sortir
du
ton souffle, CV.
Du
hein,
pour,
les présentations sont toujours longues quand tu vas là quelque part. T'as trop de chapeaux.
J'ai trop de chapeaux. Voilà.
En continuer, fais tout ce que t'aimes. Simon, merci d'être des nôtres.
Ça fait plaisir.
La dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais en route vers la Gaspésie pour présenter ta nouvelle pièce de théâtre, Ta maison brûle. C'était également pour souligner ta première présence à l'événement Au fil des mots, Au fil de l'eau, parmi les 8 auteurs que les gens étaient invités à venir te rencontrer. Toi, tu y étais le 29 juillet dernier. Maintenant, porte-parole de la première édition du Festival de littérature jeunesse de Montréal. Je ne peux pas te poser la question. Simon, est-ce que tu serais fan de nouveautés?
Oui, bien sûr. Moi, en fait, je suis fan de... Je suis un gars curieux. Je suis un gars curieux, puis j'aime essayer des choses.
T'es game?
Je suis un gars willing. Je suis tout le temps partant pour faire plein de choses dans la vie. Et j'aime ça me mettre en danger, puis j'aime ça. Puis être porte-parole aussi, c'est nouveau, là, j'en fais de plus en plus, mais au départ, est-ce que je suis capable de porter la parole? Ben finalement, je pense que oui, mais j'aime ça essayer plusieurs choses, me mettre en danger.
Ben justement, tu es également, j'en profite, je te rattrape au vol, tu es également porte-parole de Fou de théâtre avec Émilie Perrault.
Oui.
Parole ou écrit?
Les deux. Les deux. Pour moi, les deux cohabitent. Je pense que la communication, c'est vaste. J'ai toujours aimé communiquer. Je pense que tu vas... Je te ressemble peut-être un peu parce que j'aimais beaucoup chanter quand j'étais jeune.
Oui.
La communication, ça se fait de mille façons. La danse, le corps, mais aussi chanter, c'est communiquer. Et écrire est arrivé très, très tôt. Prendre parole. Donc, tout ça, pour moi, c'est des façons d'être en relation avec les autres. Donc, oui, puis ça, c'est à l'Assomption. Et c'est... donc là, c'est du 14 au 17 août et donc c'est un festival hyper varié parce qu'il y a plusieurs pièces, des pièces jeunesse, mais aussi des pièces pour adultes, des déambulatoires
partout
dans
la ville. C'est vraiment diversifié. On a reçu hier, je crois que c'était la directrice artistique justement de Fou de
théâtre.
Michel
Rouleau.
Oui, Michel, voilà, exactement, qui était avec nous hier. Et elle nous a tout expliqué ça. Il y a les fous passeports, en tout cas, il y a des 50 passeports spéciaux. On a tout dit ça, mais t'es quand même le porte-parole. Mais ici, t'es le porte-parole. On va quand même parler du festival. Premier festival de littérature de jeunesse. C'est quoi ton rôle
à
la Chine? À la Chine.
C'est
quoi ton rôle?
Ben, en fait, je vais être présent au cours de la journée. Je vais donner une conférence. Mais en fait, je pense que j'incarne quand même plutôt bien la littérature jeunesse parce que
j'ai pas été capable de compter tout ce que j'ai écrit. J'en ai écrit beaucoup.
Mais c'est aussi, je suis dans plusieurs sphères. C'est-à-dire que j'ai étudié pour devenir comédien. J'ai étudié en littérature. Et donc, j'écris autant du théâtre que de la poésie pour enfants, pour adolescents, des romans. Donc, je pense que je vise dans plusieurs directions et j'aime vraiment m'adresser aux enfants. Il y en a qui écrivent bien aux enfants, mais quand c'est le temps de les rencontrer dans les classes, ça circule moins. C'est tout à fait plausible. Ça aurait pu être mon cas. Hein. J'ai écrit pour les enfants avant d'en côtoyer beaucoup, puis il se trouve que ça s'est vraiment bien passé. Je me sentais à ma place dans les classes en allant défendre mes mots, puis en leur demandant, en parlant de la vie, en fait, je leur pose des questions. Et c'est très inspirant pour moi. J'ai l'impression que c'est du donnant-donnant, là. C'est du vrai mutualisme. Quand je vais dans des classes, J'essaie de les inspirer, puis je sors de là toujours inspiré.
Justement, donc, tu l'as nommé, les gens peuvent venir te rencontrer parce qu'il y a une programmation là, qui commence dès 9h. Oui. À 10h, il y a un théâtre jeunesse. 11h, rencontre avec l'illustratrice Élise Gravel. Et à midi...
C'est une star, Élise Gravel. Québec, je suis fan absolument. Comme tout le monde. Élise.
Et à midi, c'est toi qu'on peut rencontrer. Simon, qu'est-ce que tu veux livrer ou qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent pendant ce 60 minutes d'entretien, je crois 60 ou un 30 minutes avec toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment passer comme message?
Je dirais que moi, mon parcours n'a pas été facile. C'est un parcours en dents de scie. Je me suis révélée peu à peu. Ça n'a pas été facile. Puis j'aime ça de mentionner parce qu'on pense que la création, c'est là ou c'est pas là. Bien, la création se développe. Et moi, je suis un bon cas. J'avais un mini-talent de rien du tout. Je le dis souvent, moi, j'ai commencé à écrire suite à un malentendu. Ma prof m'avait dit que j'écrivais bien. Puis elle parlait juste de ma calligraphie. Puis moi, j'ai pensé que j'étais un écrivain.
Oh, j'aime ça!
Ça a commencé comme ça.
Oh, que j'aime ça!
Puis là, j'ai écrit, ben là, Simon, t'es un écrivain, faut que tu lises. Alors, j'ai commencé à lire. Puis là, forcément, en lisant, mes phrases se sont bonifiées. Mon discours s'est précisé. Et donc...
ben, j'ai des frissons dans la tête. Je trouve ça merveilleux à quel point ce quiproquo-là a pu
Mais c'est incroyable comment les gens ont besoin de tremplin dans la vie. Moi, ça a été ça, mon tremplin. J'ai eu des professeurs importants. Puis je pense que...
Ça a été l'étincelle qui a donné
c'est ça, ça a été l'étincelle. Puis peut-être que, bon, je serais peut-être devenu garagiste, puis ça serait très bien aussi, sauf qu'aujourd'hui...
Garagiste avec une très belle calligraphie.
Avec une très belle calligraphie!
Ben, ça serait des beaux reçus, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
La porte qui était fermée à partir de ce moment-là, c'était médecin. C'est vrai, tout à fait.
Des prescriptions qui sont illisibles.
Simon, pourquoi on écrit pour les jeunes?
D'abord, on écrit pour les jeunes parce qu'on a à cœur la jeunesse, parce qu'on a à cœur de la transmission. Je pense qu'il faut... avoir une part d'optimisme en soi. Quand on s'adresse aux enfants, je ne peux pas concevoir qu'on soit dans le cynisme. Il peut avoir, on peut être ironique, bien sûr, les enfants aiment l'ironie.
Comprennent les deuxièmes sens, sont moins pognés qu'on pense.
Ils connaissent la cruauté aussi, bien sûr. Mais je pense qu'il faut avoir une part de lumière dans l'écriture. Moi, c'est la seule règle que je m'impose, mais sinon, il y a très peu de différence, en fait, entre l'électorat adulte et enfant, adolescent. C'est juste... une œuvre de vérité, être honnête dans ce qu'on écrit. Si ton personnage a 13 ans, il vit des choses qui ne seraient pas crédibles pour un... Ben là, ça, on le ressent. On ressent la crédibilité de l'auteur derrière le personnage. Donc, il faut qu'il y ait une forme de tendresse et de respect pour la jeunesse.
Et nécessairement, c'est le premier rapport parce que, tu sais, un jeune peut pouvoir lire Le Seigneur des Anneaux et d'autres œuvres qui ne sont pas destinées à
bien
eux.
Sûr.
Mais souvent, c'est le premier rapport qui va les emmener plus tard à lire d'autres livres. Donc, s'il n'y a pas cette première porte d'entrée-là, ça se peut qu'on perde des lecteurs. C'est le moment de capter, en fait, les lecteurs.
Absolument. Voilà. J'aime ça, tu as dit le bon mot. Je trouve que c'est une porte d'entrée. C'est souvent, et je trouve ça, je dis toujours que c'est un privilège exceptionnel, c'est parfois la première œuvre qu'ils vont lire ou qu'ils vont voir au théâtre dans leur vie, ça s'inscrit dans une mémoire qui est complètement blanche. T'sais, on se dépose dans la mémoire d'un enfant. Un privilège qu'on n'a pas en tant qu'adulte.
Et des choses avec lesquelles ils vont se développer, ils vont garder comme référent pour peut-être certaines décisions, pour certaines perceptions.
Fait que
c'est quand même loin. Puis on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un domaine qui est nouveau, la littérature jeunesse. Je lisais des livres jeunesse ou pour, mais je lisais La Comtesse de Ségur.
Mais c'est ça, souvent des traductions ou des livres étrangers. Là, il y a beaucoup de littérature québécoise.
Mais ça émerge de quoi cette idée pour qu'il y ait une première édition en 2019 d'un festival de littérature dans une métropole comme Montréal?
Ben là, il faut dire que c'est le blog Page par Page qui ont eu cette idée-là. Donc, c'est des femmes passionnées de littérature, passionnées par l'enfance, passionnées par l'idée de promouvoir cette littérature-là qui est à leur sens et au mien de la grande littérature, point. Donc, pourquoi ça a pris tant de temps? C'est une bonne question. Je pense qu'on a quand même célébré la littérature jeunesse de façon
variée. Dans les salons du livre, il y a des kiosques. C'est toujours présent, mais ça n'a jamais été autant ciblé.
Là, c'est une fête. Là, ce que j'aime de cet événement-là, ça se veut vraiment festif. C'est rassembleur. On est sous une immense tente. Et il y a de tout. Il y a l'heure du conte. Il y a une pièce de théâtre qui va être présentée. Il y a les auteurs qui sont là. Il y a des kiosques avec les éditeurs et leurs livres. Et ça se veut familial. Donc, c'est très inclusif. Tout le monde est le bienvenu. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est célébrer la littérature jeunesse en famille.
Et c'est le 11 août.
Dimanche,
à la Chine,
voilà.
C'est ce dimanche.
Puis il annonce du beau temps en plus, j'ai vérifié là, il annonce parce qu'on avait peur parce que tu sais il y avait
c'est sûr, mais au moins vous avez une tente, il y en a qui n'ont pas là, tu sais, festival d'été ça a été évacué pour Imagine Dragons. Mais je veux rappeler aux gens qu'il y a trois zones, trois scènes où il se passe toujours quelque chose de manière simultanée, donc on aura toujours le choix. Il y a de la création littéraire pour les ados, une conférence de Marianne Prairie pour les parents. Donc c'est vraiment pour jeunes, adolescents.
Il y a du slam, un atelier de
parents,
slam.
Exactement. Et si on veut plus de détails. Ça commence à 9h. On se rend sur le www.flj-montréal.com. Avant que tu nous quittes, Simon, parce que tu es d'une gentillesse incommensurable de t'être déplacé jusqu'à nous pour venir nous parler de ce beau festival, cette belle première. Petit quiz. Jeune lecteur devenu grand auteur.
Parfait. J'adore les quiz, hein, tu le sais.
Tes habitudes de lecture quand tu étais jeune?
Archie. J'ai commencé à lire Archie. Ça a été ça ma porte d'entrée.
Tu lisais le matin, le soir, l'après-midi, souvent, longtemps, en petit bout?
Beaucoup dans l'autobus. J'adore lire dans les transports en commun. Encore aujourd'hui. J'avoue. Mais j'ai commencé dans l'autobus.
Qu'est-ce que tu aimais le plus dans le fait de lire?
Ah, c'est comme si j'entrais dans l'univers de quelqu'un d'autre, donc on me tirait par la main et où on me parlait dans le creux de l'oreille, donc je me sentais jamais seule.
Qu'est-ce que tu aimais le moins et tu dois trouver quelque chose?
Dans la lecture?
Ouais.
Ah, je trouvais ça vertigineux, le nombre de pages parfois.
T'étais découragée avant de commencer.
Ah, vraiment. Puis un peu comme Kevin, j'aimais beaucoup collectionner les livres, puis parfois je les lisais pas. Ça m'a pris du temps. J'aimais ça les avoir, un jour je vais les lire.
Le livre qui t'a le plus marqué quand t'étais jeune?
C'est un roman qui s'appelle La vie au max de Suzanne Julien qui parle de la pauvreté. C'est le premier roman où il y avait des questions sociales qui étaient soulevées, donc ça m'a beaucoup touchée.
Ah, OK. J'allais commencer. Non, il faut continuer le quiz. Qu'est-ce qu'un livre jeunesse doit comporter pour toi? Selon toi, le must d'un livre jeunesse, ça peut être un personnage, un format, un thème, une image, un son, n'importe quoi.
Le mot qui me vient, c'est la sincérité. Ça sera toujours ça, sincérité. Donc, un personnage qui vit des choses sincères et voilà. Et une petite parcelle de lumière.
Quel est le plus grand faux pas qu'on peut faire comme auteur de livre jeunesse ou qu'un livre jeunesse peut comporter?
Guidouner, quand je dis ça, ça veut dire, tu sais, vouloir charmer à tout prix. J'haïs ça. Ça paraît quand quelqu'un veut charmer. Tu sais, va traiter du sujet qui est présentement chaud, puis il le fait de façon...
Frileux. Tu y vas ou tu y vas pas?
Mais que ça soit encore, tu sais, que ça devienne d'une pulsion sincère, c'est ça.
La clochette pour tourner la page, c'est oui ou c'est non?
Oh, c'est non. Tellement que ça gêne. T'as tourné quand tu veux, mon Dieu.
C'est bon, Simon Boulris, merci beaucoup.
Merci,
et c'est le premier festival de littérature jeunesse de Montréal ce dimanche à la Chine, manquez pas ça.
Il y a d'autres regards, il y a d'autres pays. Il y a bien d'autres gares, bien d'autres poésies. Et bien d'autres visions, d'autres voix, d'autres bruits. Et puis bien d'autres ailleurs, bien d'autres ici qu'ici. Il y a d'autres moyens, d'autres chemins à prendre. Il y a tant à donner, acheter ou à vendre. Tant de couleurs, de goûts et puis d'odeurs. Tant de choses à toucher, apprendre et espérer. Voyageur, il n'y a pas d'autre sens, il n'y a pas d'autre but. Voyageur, c'est là toute l'essence de notre venue. Vagabond en exil, qui erre dans la nuit. Où témoin ton bébé, là où passait la vie. Et des milliards d'histoires dans nos milliards de têtes. Assez pour se parler de planète en planète. De bateaux, de fusées, de rêves et de peut-être. Qui nous porteront loin, plus loin de guerre en fait. Et dans toutes nos terres, dans tous nos océans. Les traces de nos grands-pères, ceux qui étaient avant. Et dans tout cet espace d'astres éblouissants, depuis le temps qui passe, nulle trace du néant. Voyageur, il n'y a pas d'autre sens, il n'y a pas d'autre but. Voyageur, c'est là toute l'essence de notre venue. Vagabond en exil, qui erre dans la nuit, où témoin ton bébé, là où passait la vie. Dites-moi, avons-nous tort vivant comme des zombies? Tout au bout, c'est la mort, on continue la vie. Et dans ce grand voyage, où je suis invité, sommes-nous les véhicules, ou bien les passagers? Dans mon itinéraire, que ferais-je donc à pied?
en métro, en avion, et que vais-je rêver de printemps en hiver, de voyage en voyage, mon arc dans le vent, porteur du grand message, voyageur. Il n'y a pas d'autre sens, il n'y a pas d'autre but. Voyageur, c'est là toute l'essence de notre venue. Vagabond en exil, qui erre dans la nuit, où témoin ton bébé, là où passait la vie. Voyageur, ouh, voyageur.
Voyageur de Luc de la Rochelière. Et pour être voyageur, ben, il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser le train, les bateaux, la marche, si c'est pas l'autre bord d'un océan.
La trottinette.
Ou l'avion.
Ou l'avion.
Kevin, tu vas nous parler de cette expérience qu'est un voyage en avion, surtout comment y survivre en fauteuil roulant.
Ouais, aujourd'hui, je m'attaque aux deux moyens de locomotion les plus incompatibles de l'histoire, c'est-à-dire l'avion et le fauteuil roulant. Bien étrangement, aucune des grandes compagnies aériennes a réussi à ce jour à intégrer harmonieusement et de façon sécuritaire les 15 kg d'un fauteuil roulant au sein d'un mastodonte de 60 tonnes. À la conception des avions, les ingénieurs n'avaient tout simplement pas prévu que des passagers handicapés, se croyant visiblement tout permis, voudraient apporter avec eux ce petit accessoire ne fitant clairement pas dans les caissons réservés aux bagages. Et aujourd'hui, aux États-Unis, plus de 25 millions de personnes ont déclaré avoir des besoins d'adaptation lorsqu'ils prennent l'avion, et ça, c'est simplement pour les États-Unis. Alors, on fait quoi maintenant avec ceux qui trimballent un fauteuil roulant lorsqu'ils voyagent? On le laisse soigneusement aux côtés de son usager, ou alors on le fixe au sol avec son propriétaire confortablement assis sur le coussin conçu de façon thérapeutique pour ses foufounes. Quelle sottise! C'est impensable! C'est illogique! Bien sûr que non, il n'y a pas d'espace pour ça, voyons donc! Garochons-le plutôt avec parcimonie, comme n'importe quelle valise dans la soute à bagages, tout en prenant le soin d'accoler une étiquette fragile dessus pour se donner bonne conscience. Pourquoi donc? Ben le capitalisme, bien sûr, ce coupable récurrent. Chaque centimètre compte pour les compagnies aériennes. Elles n'attendent que les scientifiques ne perfectionnent les machines antigravité pour installer des sièges au plafond. Question d'empiler ses clients comme des Tetris qu'ils sont, toujours dans leur quête ultime de faire plus de piastres. Ce calcul minutieux de l'espace n'est donc pas tout à fait congruent avec un certain principe fondamental, celui du droit à l'autonomie. Et dans une industrie régulée uniquement par un fichier Excel, dans lequel on y retrouve les colonnes profit, dépenses, ben la colonne droit humain prend le bord. Fait que si tu veux voyager outre-mer, t'es mieux d'attacher ta tuque. Ou plutôt laisser les employés de l'aéroport attacher ta tuque. Parce que pendant qu'on transporte ton précieux roulant dans la soute, toi, on va t'installer sur un diable à roulettes, sorte de minuscule chaise sur lequel on t'attache avec des straps pour te trimballer entre les menus rangés jusqu'à ton siège, le tout sous le regard attentif des autres passagers qui se demandent « Wow! Pourquoi est-ce qu'ils laissent monter Hannibal Lecter à bord? » Et une fois que t'es rendu sur ton siège, ben t'es mieux d'être confortable et surtout un petit peu déshydraté. Pas trop déshydraté, là. Il faut pas que tu t'évanouisses non plus. Oh, la mauvaise presse que ça ferait aux compagnies aériennes. Mais je recommande d'avoir la bouche un peu sec et la vessie vide. Pas de Coca-Cola sans glace ni de vin pour toi. Pas de risque à prendre. Parce que si tu daignes vouloir te rendre aux toilettes pendant ce trajet de 7 heures, tu devras à nouveau embarquer sur la chaise Hannibal Lecter, faire un catwalk entre les yeux intrigués des passagers, annonçant que tu t'en vas faire un numéro 1 ou pire un numéro 2, à condition bien sûr que la cabine soit suffisamment grande pour t'accueillir et essayer de vider ta vessie. Bref, mon premier conseil, sois un peu déshydraté. Et une fois que ton périple est terminé, il ne te suffira d'attendre que chaque Jacques et chaque Jacqueline quittent la cabine, qu'on débarque les bagages, qu'un préposé retrouve ta chaise, qu'un préposé la sorte, qu'un autre préposé essaie de réinstaller les pièces tombées, qu'un autre préposé brise davantage ton fauteuil en essayant de réinstaller les pièces tombées, qu'un préposé te le ramène avec la mienne tout aussi défaite que tes appuis-pieds, et te voilà à Bruxelles sans appuis-pieds. Voilà donc mon dernier conseil. Emmène-toi des pièces de rechange si tu veux voyager.
OK! C'est tellement vrai ce que tu dis, Kevin. C'est mourant, cette affaire-là, parce que pour vrai, c'est tellement... Puis c'est tellement... Puis tu te fais regarder, puis les gens se demandent pourquoi que t'as le droit. Puis ils te prêtent un autre fauteuil roulant. Puis oui, moi, j'ai vraiment embarqué dans une, sur une, un porte-bagage, littéralement. Ouais. Là, un truc en métal. Diable, ouais.
Il appelle ça une chaise Washington. C'est ouais. Le nom qu'on donne, mais c'est vraiment humiliant.
Puis là, c'est des fois, ils ont perdu ta chaise. Puis là, tu sais, à un moment donné, la chaise n'avait pas embarqué dans le même vol.
Ah oui.
Fait que, tu sais, comme, si c'était ma brosse à cheveux, tu sais, voyons. Fait que, non, écoute, j'avais. Puis il y a des angles que tu as touchés qui sont tellement drôles et qui sont tellement. Ok, je me suis reconnue.
C'est débile parce que comment est-ce qu'on est capable de faire voler un mastodonte de même? Ça prend genre un génie scientifique à la perfection, mais on n'est pas capable de faire rentrer un fauteuil roulant dans la cabine.
Tu sais, tu parlais, puis je me disais, mais c'est vrai que t'enlèves comme une rangée ou comme tu sais, je veux dire, mais tu mets les fauteuils. Je veux dire, si tu t'enlèves pas les fauteuils, je veux dire.
Pourquoi séparer l'usager de son fauteuil? Tu fais pas ça quand tu prends le bateau.
Mais les gens comprennent pas que c'est une relation fusionnelle non plus.
C'est ça. Non, parce on que pense que c'est un bagage. Fait que c'était ça cette semaine.
Mais ça a été une excellente émission, excellent programme, excellente semaine. Et très heureuse d'avoir rencontré enfin Simon Boulris, qu'on avait seulement pu entendre, dont on avait pu entendre la douce voix au téléphone. Il était parmi nous aujourd'hui en studio pour parler de la première édition du Festival de littérature jeunesse qui aura lieu à Montréal ce dimanche le 11 août à partir de 9h. Vous pourrez aller rencontrer Simon à partir de midi. J'ai posé la question à Simon. Et toi, qu'est-ce que t'aimais le moins dans le fait de lire?
Ben, moi, c'est
on dirait que c'était lire tout court, là, mais...
Je pense que c'est physionomique, parce que moi, je lis beaucoup, mettons, sur ma tablette, sur un téléphone. D'avoir ça posté devant mes yeux, ça va bien, mais un livre, il faut être un petit peu penché, puis je trouve la posture inconfortable. Fait que des livres audio, je vais les lire, sur ma tablette, je vais lire, mais quand il est question d'avoir le cou un peu penché, puis de tourner les pages, je suis jamais confortable. Donc moi, c'est physionomique, la raison pour laquelle je lis pas beaucoup.
Mais j'avoue que je changeais beaucoup de position quand que je lisais longtemps, là, c'est comme sur le ventre, là, sur les coudes, ouais. Là, t'as mal au coude, là, faut que tu te mettes comme ça, sur le dos, avec le livre plus dans les armes, ouais. Là, t'as mal au bras.
Ouais.
Fait que là, faut que tu t'assises. Mais c'est vrai, après, là, tu t'assois, là, t'as mal dans le cou, puis dans le dos, fait que
moi,
tu recommences. Il y a des rotations.
Ouais.
T'as raison, moi, ce que j'aimais le moins, là, des fois, c'est un peu bizarre, mais c'est quand j'aimais vraiment un livre, puis que le livre se terminait.
Oh.
Mais j'avais vraiment, pour vrai, moi, les fins, ça a tout le temps été un peu difficile, là. Puis même, je me rends compte que même les livres que je lisais, que j'aimais, genre Mademoiselle C, là, j'avais lu ça quand j'étais plus jeune, puis j'avais trouvé ça tellement bon, j'étais triste de perdre le personnage. Puis des fois, je recommençais le livre. Mais c'est ça, c'est moi, hein, écoute. Puis la clochette, moi, j'aimais ça. Je trouve que ça...
Oui?
Mais moi, j'aime ça avoir un cadre extérieur. On dirait que ça me régissait un peu ma vie, ça mettait un peu d'ordre. De discipline. Contrairement à Simon qui trouvait ça bien anxiogène. Moi, c'était comme ça. OK, c'est l'heure de tourner en
bas. Oui, c'est
ça. Oui, vraiment. Ça me gardait alerte, comme bon. Si j'en avais besoin.
Il y en a un rond.
Mais en tout cas, ben vraiment. Puis ben amenez vos jeunes là-bas.
Il annonce beau. Puis en plus, Simon, c'est un soleil à lui seul. Là, fait que,
vraiment.
Mais il va y avoir un autre soleil, c'est-à-dire le vrai soleil qui sera là pour vous attendre dimanche. Merci Emmanuel. Merci Mathieu. Merci Claire. Merci Louis. Est-ce que j'ai nommé tout le monde?
Merci Claire, merci Louis, merci Mathieu, merci Kevin, merci.
Merci Emmanuel.
Eh bien oui, mais merci à tout le monde d'avoir été là toute la semaine. Et à 11h30, lundi, on reprend de plus belle, dis-je, une nouvelle édition d'Aime l'été. Bonne fin de semaine tout le monde.
Bon week-end.